France Musique. Musicopolis. Mannheim, le séjour de Mozart. Musicopolis vous a proposé il y a quelques jours la visite de Mannheim. Son plan de ville quadrillé, son prince électeur Karl Theodor, ami des sciences et des arts, et surtout son orchestre, que l'anglais Burney comparait à une armée de généraux, puisque nombre de ses musiciens sont aussi compositeurs. Une situation qui fait de Mannheim une véritable capitale musicale de niveau international. On se doute que pour un compositeur en quête de bonne fortune, c'est vraiment un endroit où chercher à s'employer. Justement, c'est par là que le jeune Mozart, 21 ans, commence une tournée de prospection après avoir démissionné de son poste à Salzbourg. Sa première visite est pour Monsieur Cannabich, le directeur de l'orchestre. Wolfgang Mozart connaît déjà Cannabich, qui le reçoit d'une manière extraordinairement aimable, et l'orchestre de Mannheim. Il les connaît d'un précédent voyage qu'il avait fait 15 ans plus tôt, en 1763, il avait alors 7 ans. À présent, en 1777, Mozart n'est plus un enfant prodige. Il a déjà dans son catalogue une quinzaine de messes, une vingtaine de motets ou litanies, 3 oratorios, une dizaine d'ouvrages dramatiques, des arias, une quarantaine de symphonies, des cassations, des concertos, des sonates et variations pour piano, toutes sortes de pièces de musique de chambre à 2, à 3, à 4, à 5. Bref, on comprend qu'après avoir été présenté au gratin de la ville, il écrive à son père « Quelques-uns, qui me connaissent par renommée, étaient polis et pleins de respect. Mais d'autres, qui ne savaient rien de moi, m'ont regardé avec des yeux ronds, de manière assez ridicule. Ils pensent, parce que je suis petit et jeune, que rien de grand et de mûr ne peut être en moi. Mais ils en feront bientôt l'expérience. » Le jeune Mozart, arrivé le 30 octobre 1777 à Mannheim avec sa mère, commence à prendre ses marques dans la ville, et il en rend compte à son père resté à Salzbourg. « Je vais tous les jours chez Cannabich. C'est un tout autre homme qu'autrefois. L'orchestre tout entier est d'ailleurs de cet avis. Il m'est tout acquis. Il a une fille qui joue fort bien du clavier, et pour m'attirer complètement son amitié, je travaille actuellement, pour mademoiselle sa fille, à une sonata qui est déjà écrite jusqu'au rondo. Lorsque j'ai eu terminé le premier allegro et l'andante, je la lui ai portée et l'ai jouée. Papa ne peut s'imaginer le succès remporté par cette sonata. Aujourd'hui, monsieur le maître de chapelle Holzbauer m'a lui-même conduit chez monsieur l'intendant, le comte Savioli. » Lorsque Mozart arrive à Mannheim, les musiciens sont en pleine préparation de la fête du prince électeur Karl Théodore qui a lieu le 4 novembre. De nombreuses festivités musicales sont prévues, dont la représentation d'un opéra de Ignaz Holzbauer, le maître de chapelle du prince. Mozart assiste à la répétition, puis à la première. « La musique est très belle », écrit-il à son père. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'un homme aussi âgé que Holzbauer ait autant d'esprit, car il y a un feu incroyable dans sa musique. Mozart, en effet, peut être très critique, mais il ne ménage pas non plus ses compliments lorsqu'il y a lieu. Au bout de quelques jours à Mannheim, Mozart réussit à se faire présenter au prince électeur et à son épouse. Il joue pour eux. Le prince lui dit « Vous jouez incomparablement ». Et quant à la princesse, elle lui dit, en français, « Monsieur, je vous assure, on ne peut pas jouer mieux ». À Mannheim, Mozart fréquente les musiciens de l'orchestre, Cannabich, mais aussi le flûtiste Wendling, le oboïste Ramm, à qui il a offert son concerto pour hautbois, le violoniste Franzl. Il compose, il termine la sonate en ut majeur qu'il destine à la fille de Cannabich, et il la lui fait travailler. Quelques jours après avoir joué pour le prince électeur, il se rend chez l'intendant pour recevoir son présent. « Comme je le pensais, écrit-il à son père, ce n'était pas de l'argent, mais une belle montre en or. J'aurais évidemment préféré 10 carolins à cette montre qui est évaluée à 20 carolins avec la chaîne et la devise. En voyage, c'est d'argent qu'on a besoin. J'ai maintenant, avec votre permission, 5 montres. J'ai d'ailleurs fortement envie de me faire faire un second gousset à chaque culotte et de porter, lorsque j'irai chez les grands seigneurs, 2 montres, ce qui est d'ailleurs à la mode, afin qu'ils ne leur prennent plus l'envie de m'en offrir. » Pendant son séjour à Mannheim, à l'automne 1777, Mozart est très demandé. On le réclame, lui et on réclame sa musique aussi, on veut la jouer. Il a quelques partitions dans ses bagages, mais peu, et tout coûte cher. Les éditions imprimées, lorsqu'elles existent, et aussi les copies. Il semble même que les copistes de Mannheim soient plus chers que ceux de Salzbourg. Le jeune homme demande souvent à son père de lui envoyer certaines de ses pièces plus anciennes, Messe, Litanie, Misericordias. Il s'est totalement fait accepter chez Cannabich, où la sonate qu'il a écrite pour la fille de la maison est chantée, pianotée, violonnée ou sifflée au moins 3 fois par jour. Après avoir attendu longtemps une réponse du prince électeur, finalement, Mozart apprend que celui-ci ne l'engagera pas et qu'il n'a donc aucun avenir à Mannheim. Lorsque Mozart annonce à ses amis qu'il ne sera pas engagé à Mannheim, tout le monde pleure. Surtout lorsque Rose Cannabich, sa jeune élève, joue la sonate qu'il a composée pour elle et qui est le morceau favori de ce petit cercle. On est déjà au mois de décembre et tout le monde se démène alors pour qu'il puisse au moins rester l'hiver, la saison n'étant pas propice au voyage. On va lui trouver un logement qu'il paiera en leçons pour les enfants de la maison. Il prendra ses repas chez l'un ou chez l'autre, et sa mère également sera nourrie en échange de leçons. La vie prend un cours régulier entre composition, leçons, musique avec les amis et nouvelles connaissances. Sur le plan sentimental, la grande affaire pour Mozart pendant son séjour à Mannheim, c'est la rencontre avec la famille Weber, le père copiste et les filles, dont la deuxième, Aloysia, à 16 ans, chante remarquablement et a une voix pure. Wolfgang en trace un portrait flatteur à son père. Elle chante remarquablement l'air que j'ai écrit pour la De Amicis, avec les passages épouvantables. Elle est en mesure d'apprendre toute seule et s'accompagne assez bien. Elle joue aussi passablement des galanteries. Bientôt, le jeune homme va imaginer d'aider au développement de la carrière d'Aloysia et peut-être même de la mener en Italie avec sa famille pour trouver les meilleurs professeurs et de bonnes opportunités. Bref, il est amoureux. Son père, Léopold, à qui Mozart fait part de ses projets d'Italie avec Aloysia Weber et sa famille, est complètement affolé. Après une semonce bien sévère, le jeune homme va faire machine arrière. Ce qui ne l'empêche pas d'accompagner la jeune chanteuse et de se produire avec elle. Cette fréquentation favorise certainement aussi l'orientation de ses compositions. Il confie à son père « N'oubliez pas mon désir d'écrire des opéras. J'envie quiconque en compose. J'aimerais pleurer de dépit lorsque j'entends ou vois un air. Mais italien, pas allemand. Sérieux, et non pas bouffa. » Quelques jours plus tard encore, il insiste. « L'idée d'écrire un opéra ne me sort pas de la tête. » Parmi les musiciens et chanteurs que Mozart rencontre à Mannheim, il y a le ténor Anton Raff. Lorsqu'il l'entend pour la première fois au mois de novembre, Mozart se retient de rire en pensant qu'il est le vieux ténor qui a été jadis si célèbre. Mais au mois de février, pourtant, il lui apporte un air qu'il a composé à son intention. Il raconte à son père. L'aria lui a énormément plu. Je lui ai demandé de me dire franchement si elle ne lui convient pas ou ne lui plaît pas. Je la lui modifierai comme il veut ou lui en composerai une autre. « À Dieu ne plaise, » répond-il, « l'aria doit rester ainsi car elle est très belle. Je vous prie seulement de me l'écourter car je ne suis plus maintenant en mesure de soutenir. » « De grand cœur, autant que vous voulez, » lui répondis-je. « J'ai fait exprès de la composer un peu longue car on peut toujours couper quelque chose mais il n'est guère facile de rajouter. » Après avoir chanté la seconde partie, il retira ses lunettes, me regarda avec des grands yeux et dit « C'est beau, c'est beau !» Lorsque je partis, je l'assurai que je lui arrangerai sans faute l'aria de sorte qu'il aime la chanter. J'aime qu'un air aille au chanteur comme un costume bien taillé. Pour m'exercer, j'ai également écrit l'air « Non so donde viene » etc. Sure. Mozart va bientôt quitter Mannheim, après plus de 4 mois passés dans la ville. Il poursuivra sa route vers Paris, et lorsqu'il retrouvera Aloysia Weber l'année suivante à Munich, il sera éconduit. Mais en février 78, tout à sa passion, il lui écrit un air. « J'avais pensé à l'origine l'écrire pour Raaf », raconte-t-il à son père. « Mais le début me semblait trop haut pour lui. Elle me plaisait trop pour la modifier, et il me sembla aussi que, par l'instrumentation, elle serait mieux adaptée à un soprano. Je me résolus donc à faire cette aria pour la Weberine. Lorsque j'eus terminé, je dis à Mademoiselle Weber, « Apprenez l'aria toute seule, chantez-la à votre gusto, puis faites-la moi entendre. » Je vous dirai franchement ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas. 2 jours plus tard, j'y allais, elle me la chanta très bien en s'accompagnant elle-même. Je dus alors avouer qu'elle l'avait chantée exactement comme je l'avais souhaité et comme j'aurais voulu la lui apprendre. C'est maintenant la meilleure aria qu'elle possède. Elle lui fera certainement honneur partout où elle ira. L'air Non so donde viene, Köchel 294 de Mozart, Sabine de Vielle, soprano, avec l'ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Max Dosolm pour les recherches et le site, Julien Bourdet pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation. À réécouter sur francemusique.fr.